parfois descend tellement bas, ça dépend des endroits, hein, tellement bas, on est dans un creux qu'on n'aperçoit même plus l'autre côté et l'autre bord. Ouais, ça dépend, là, les endroits. Hein. Voilà, parce que ce pont traverse un précipice. Il faut descendre, arriver jusque dans un creux. Ah. Quelquefois, hein, d'accord, vous êtes d'accord, dans nos vies, il faut descendre. Il faut passer par des creux, puis remonter. C'est nos vies, ça peut être les églises. Est-ce que l'église en France, en Europe, n'est pas en train de descendre, d'être un peu dans le creux? Mais elle va remonter. Et le Seigneur donc a enseigné au sujet de cette image. Et le Seigneur a dit à Étienne que Jésus est descendu aussi. Jésus est descendu. Il a traversé la plus grande des turbulences. Il est descendu aux enfers. Lui aussi, en quelque sorte, a emprunté ce pont de sage. Notre vie chrétienne est faite de montée et de descente aussi. Et ce pont est tenu par deux piliers à chaque extrémité du précipice. Et le Saint-Esprit a parlé à Étienne au sujet de ces deux piliers et lui a montré qu'il représentait deux promesses. Le premier pilier, la promesse de la venue d'un serviteur souffrant, Jésus, qui allait porter toutes nos fautes, toutes nos souffrances. C'est le premier pilier. Et le deuxième, au bout, la promesse d'un roi qui vient régner. C'est le deuxième pilier. Jésus vient accomplir ces deux réalités. La première promesse est accomplie. La deuxième va s'accomplir. Ce pont que nous devons franchir, hein, est tendu par la première venue de Jésus et par sa deuxième venue. Et le Saint-Esprit a enseigné à Étienne aussi qu'en parallèle à ces deux piliers, il faut s'accrocher à deux cordes. Et le Saint-Esprit a rappelé à Étienne deux paroles qu'un pasteur, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Bonnefer, si je me trompe bien, Pascal Dietrich Bonnefer, qui est un pasteur qui a résisté au nazisme. Et dans ses écrits, il a eu un moment, deux paroles vraiment fortes. Il a dit ceci: « Je tiens debout parce que quelqu'un me tient. » Je tiens debout parce que je suis attendu. Vous allez retenir ces deux paroles? Si vous êtes dans la descente là, hein, prononcez ces paroles, proclamez-les. Je tiens debout parce que quelqu'un me tient. Ouais, je tiens debout parce que quelqu'un m'attend, parce que je suis attendu. Ouais. Alors la question nous est posée ce matin, aussi, comme elle nous a été posée dans ce week-end, où plaçons-nous notre espérance, chers amis? Et Robert nous l'a rappelé, hein, les yeux fixés en lui, ayons les yeux fixés sur notre héritage. Les plaçons-nous encore dans nos biens matériels? Tel point que si nous vivons une petite perte, nous sommes déstabilisés. Espérons-nous encore un monde de paix sans le prince de paix? J'aime bien citer toujours cette parole de Tony, hein, notre cousin, qui dit « Pas de paix sans le prince de la paix ». Il aime souvent dire cette parole. Ouais. N'avons-nous pas retenu les leçons de ces deux guerres mondiales qui ont fait tant de morts dans le siècle dernier? Pouvons-nous encore espérer dans l'humanisme? Avec l'esprit humaniste, la seule véritable espérance, c'est l'espérance du retour historique de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Mais bien sûr, et ça c'est moi qui le rajoute, cette espérance ne nous rend pas inactifs, évidemment. Elle m'anime pour un service joyeux auprès de ceux qui m'entourent. leur communiquant cette espérance solide, demandant à Dieu les signes de son royaume, les dons, les charismes, mais aussi ma vie conforme à Jésus. C'est un signe du royaume aussi. Ma vie conforme à Jésus. Mais toujours en sachant que le royaume de Dieu ne sera pleinement accompli qu'à son retour, qu'au retour de Jésus. Jésus vient. Les premiers chrétiens étaient animés par cela. Maranatha, ils se saluaient en disant « Maranatha, est-ce qu'on pourrait se saluer tout à l'heure ?» En partant, se disant les uns les autres « Maranatha, Jésus vient !» Jésus est à la porte. Et la question nous est posée, l'Église est-elle l'épouse ? Se prépare-t-elle à être l'épouse ? Première priorité, avoir ce cœur d'épouse. L'invitation donc première, suite à cette question, avec l'image de ce pont de singe, où est-ce que je mets mon espérance ? Est-ce que je la mets dans le retour de Jésus ? Quand on va le voir, il nous dira, as-tu espéré mon retour ? Et as-tu agi en perspective ? Et ce temps qui nous est donné est un temps pour apprendre à régner. Un temps pour apprendre à régner. Voilà, première question, première invitation. Deuxième, le ciel rouge, est-ce que nous discernons... Ah, il manque un mot. Bon, ben ça, c'est la transformation. C'est pas grave. Est-ce que nous discernons quoi ?
Les temps.
Oui, bravo. Voilà. Est-ce que nous discernons les temps ? Deuxième question. Ça nous rappelle cette parole de Jésus à ses disciples. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors c'est Jean qui a partagé ce deuxième enseignement. Et il a cité ce texte, vous pouvez le noter et le prendre si vous l'avez maintenant, 1 Chronique 12, 32. C'est un texte qui semble totalement anodin. Mais vous savez, quelquefois Dieu est dans l'anodin. Dieu est dans l'anodin. 1 Chronique 12, c'est ça ? Verset 32. Au milieu de la mention donc de plusieurs troupes de milliers, je ne lis pas le verset là, hein, d'accord, mais je fais allusion à ce verset. Il est fait allusion dans ce verset à 200 officiers seulement qui avaient la particularité d'avoir du discernement. C'est 12:33, tu veux le lire, Robert ? Vas-y. Voilà, ils savaient quand et comment Israël devait agir. Ouais. Ah, ok. Voilà. Voilà, chers amis, nous devons chercher le discernement des esprits, comprendre ce qui est de l'ennemi, ce qui est de l'homme, ce qui est de Dieu. Le discernement est plus important même encore que l'équipement. Mais attention dans ce discernement, pas seulement avoir en vue l'agenda du diable, c'est peut-être bien d'avoir l'agenda du diable, mais c'est surtout important d'avoir l'agenda de Dieu. Et Dieu veut nous donner du discernement, pas pour qu'on rêve ensuite, mais pour qu'on agisse. Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel ». Mais les choses révélées sont à nous pour que nous les pratiquions. Oui, Deutéronome 29, verset 29. Voilà, le savoir ne suffit pas sans la connaissance intime de Dieu. L'expérience, sa fidélité. La parole de Dieu nous ouvre les yeux et l'obéissance aussi nous ouvre les yeux. Et à travers cette question... Trois sous-questions. Est-ce que nous discernons les temps? Qu'est-ce que je vois? Je peux transformer. Qu'est-ce que tu vois? Hein, Jésus, Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Ouais. Cette invitation à voir ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Discerner les temps pour notre quotidien, discerner les temps pour ma nation, voire pour d'autres nations. Et Maggie, là j'introduis une petite exhortation de Maggie entre deux, qui nous a interpellés en disant, mais de tout ce qu'on nous montre dans le monde, dans les actualités, que vois-je? Est-ce que je n'entends que du négatif et ça me pollue et ça me rend complètement dépressif? À tel point qu'il se peut que le Seigneur nous demande un moment de nous couper de toute information pendant 3 ou 4 jours. C'est ce qu'une serviteur, une servante de Dieu nous a dit il y a quelque temps que je suis allé écouter. Agnès Stas, elle a dit, quelquefois pendant 3 ou 4 jours, j'arrête tout, tellement ça me pollue. Il faut faire attention. Est-ce que je suis fixé seulement sur l'agenda du diable? Je vais complètement être écrasé. Est-ce que je vois l'agenda de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et Maggie a été encouragée par ce clin d'œil de Dieu qui peut nous faire à nous chacun de différentes façons. Elle est tombée sur un article du Parisien, un journal sur Internet, qui disait « Dieu fait sa rentrée littéraire ». Parce qu'il y a plein de livres qui sont prêts à sortir sur Dieu. Et dans ce paragraphe, il était écrit, le premier paragraphe de l'article, « La star de la rentrée, c'est Dieu ». C'est un clin d'œil. Dieu veut nous faire comme ça des clins d'œil pour dire, mais je fais ma rentrée aussi. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris des vacances? Dieu ne prend pas de vacances, je crois. Mais voilà. Est-ce que ta rentrée est lourde, mon frère, ma sœur? Ta rentrée est lourde, Dieu fait la rentrée avec toi. Dieu fait sa rentrée avec toi. Il est en action. Que vois-je? Puis-je voir selon la perspective de Dieu? Puis-je voir sa main? Dieu nous aide à comprendre qu'il est en action et cela m'amène à entrer dans un travail d'accouchement pour avoir une prière juste et à propos. Dieu s'intéresse à notre nation et Maggie nous a dit, nous sommes appelés à vivre une année selon la perspective de Dieu. En ayant une bonne interprétation spirituelle. Si nous sommes d'accord avec Dieu, nous vivrons une année intéressante. J'ai dit intéressant, Maggie, elle a dit exceptionnelle. Je suis plus prudent ou j'ai moins de foi qu'elle. Bon. Malgré les difficultés, les turbulences, les apparences d'échec, nous aurons des témoignages de la grâce de Dieu si nous sommes d'accord avec lui. Même des événements négatifs montreront la lumière de Dieu. Et nous aurons une année de rajeunissement. Nous pourrons témoigner de la fidélité de Dieu. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. J'aime beaucoup ce verset. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Et Romains 8, 28, c'est aussi un verset dans le hit parable de mes versets. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et bien sûr, Matthieu 18, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors voilà, est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je connais son agenda? Première sous-question, hein, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Deuxième sous-question de cette deuxième grande question, j'espère que vous me suivez. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Je vais vous lire un passage dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, versets 22 à 25. Dans ce passage, il est parlé de David. Ben David, il est passé par le pont de singe aussi, lui. Il est descendu un moment. Sa femme est partie, Saül l'a chassé, alors qu'il était en haut au départ. Hein. Et puis il est remonté. Il est allé dans le creux. Alors, 2 Samuel 5, 22 à 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Dans cet épisode, David nous montre qu'il consulte Dieu avant d'agir. Il cherche à écouter Dieu en permanence. Il reçoit des instructions. Il doit attendre un bruit de pas. Et quand il a entendu ce bruit de pas, là, il doit se hâter. Qu'entends-tu ? Apprenons à écouter constamment. À savoir attendre quand il faut attendre, à savoir se hâter quand il faut se hâter. Troisième sous-question, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je désire ? Jean 1, 37 à 39, les deux disciples entendirent Jésus prononcer ces paroles, ils le suivirent. Jésus se retourna, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rami, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Voilà, Jésus leur répond, venez et voyez. À la question, où demeures-tu ? Nous aussi, on doit poser cette question, Seigneur, où tu es ? Où tu es ? Je veux te suivre. Les saints sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Nous devons désirer être où le Seigneur demeure. Mon désir va aussi me permettre de discerner. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je désire ? J'en arrive à la troisième et dernière grande question. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un torrent. Où je puise mes ressources. Et là, ça fait allusion encore à David, ce récit tellement connu de David, du combat de David contre Goliath, 1 Samuel 17, 38 à 40. Et ce torrent, ben c'était un torrent comme ça certainement, dans lequel David s'est saisi de 5 pierres polies pour aller combattre Goliath. Mais on va lire 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et vous connaissez la suite. Une pierre même a suffi pour toucher Goliath en plein front. Voilà, David refuse l'équipement qui n'est pas le sien. Un équipement humain. On ne peut pas descendre avec une armure qui n'est pas donnée par Dieu. Et vous savez, ça, je l'ai découvert aussi, c'est Jean qui nous a appris ça, que le combat entre David et Goliath a eu lieu près d'un campement, enfin, près du campement des Philistins, et d'après la Bible, à Éphèse d'Amine, qui veut dire frontière du sang. Frontière du sang. Ça nous parle de la croix. Ça nous parle de la grâce de Dieu. Et ce torrent se trouvait là, dans cette frontière du sang. Parce que c'est dans le torrent de la grâce de Dieu, et seulement dans ce torrent de la grâce de Dieu, que nous devons chercher notre équipement. Nous ne devons pas chercher ailleurs. Où nous cherchons notre équipement ? Où nous cherchons nos armes ? Ces pierres, c'est dans l'intimité avec Dieu que nous allons les trouver. Il y a un pasteur qui a dit, de la première demi-heure de ta journée dépendra qui sera le maître de ta journée. Ah, ça m'a fait réfléchir. Ah, moi, je me lève, j'ai envie d'aller sur ma tablette et puis... Bon, et de regarder, voilà. Ben voilà. Voilà, et ça m'a fait réfléchir. De ta première demi-heure dépendra qui sera le maître de ta journée. Nous devons puiser nos Goliaths en puisant seulement dans le torrent de la grâce de Dieu. Et Étienne a posé la question au Seigneur, et le Seigneur lui a inspiré au sujet de ces cinq pierres. Pourquoi cinq pierres? Étienne a reçu cette inspiration que les cinq pierres rappelaient les cinq doigts de la main. Cette main qui a saisi les cailloux, qui a saisi la fronde aussi. Hein. Et ça, je vais terminer avec ça. Et c'est facile à retenir, ça va nous aider, hein, d'accord, à prendre notre équipement dans la grâce de Dieu. Le pouce, c'est la foi. C'est la foi. Je saisis. Si enlever le pouce de votre main et pour saisir des objets, c'est très difficile, presque impossible. Mais pour saisir quelque chose sans le pouce, ben vraiment. Donc, avec le pouce, je peux saisir. Je peux saisir la grâce.
Avec le pouce,
on peut travailler, bien sûr. Ben oui. Oui, ceux qui ont vraiment un accident avec le pouce sont vraiment handicapés. D'accord. Donc, nous disons souvent, « Ah, je suis sauvé par la grâce. » On pourrait dire, on devrait dire, « Je suis équipé par la grâce. » Et je saisis le salut par la grâce, mais je saisis aussi mon équipement par la grâce, par la foi, pardon, par la foi. Voyez, vous m'avez compris. Je saisis la grâce par la foi. Je saisis la grâce du salut par la foi. Je saisis la grâce de l'équipement par la foi. D'accord? Le pouce, c'est la foi en l'œuvre du Christ, la foi en qui il est. Ma foi en Dieu, c'est aussi la foi de Dieu en moi. L'index pour indiquer la direction, l'appel, c'est l'appel de Dieu sur ma vie. Vous savez, David ne s'est pas encombré de l'armure de quelqu'un d'autre. Et souvent, nous cherchons à nous comparer aux autres, ou nous cherchons à être quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à chercher à être quelqu'un d'autre. Nous sommes uniques, chacun. On a tous un même appel, celui de manifester l'amour de Dieu, celui d'être témoin, mais aussi on a des appels spécifiques. Et donc l'index, c'est l'appel de Dieu avec le don de Dieu qui est associé dans ma vie. Nous gaspillons du temps, de l'énergie quelquefois. Pierre dit, efforcez-vous d'être en accord avec la vocation qui est sur votre vie. Le majeur, c'est le doigt le plus long. Et c'est l'importance de prendre de la hauteur, de voir, et ça se recoupe avec ce qui a déjà été dit, voir selon la perspective de Dieu. Voir selon la perspective de Dieu. C'est curieux parce que ce week-end au Château Blanc, on s'est tous un moment éparpillés dans le parc. Puis il y avait quelqu'un qui avait oublié de prendre un fauteuil, qui voulait s'asseoir, mais qui a trouvé dans le château un moment sur la gauche, là, il y a un truc où il faut monter, on est vraiment en haut, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, ça devait peut-être se trouver dans le cours de tennis avant, je ne sais pas. Ouais. Et Dieu lui a parlé, elle a rendu témoignage après, Dieu lui a parlé que Dieu voulait lui dire qu'elle devait prendre de la hauteur. Et c'est marrant parce que moi, quand je l'ai croisé, tout de suite j'ai eu cette parole pour lui, j'ai dit, Janine, elle s'appelle Janine, je crois que le Seigneur t'appelle à prendre de la hauteur. Et ça confirmait ce que le Seigneur était en train de lui dire aussi. Voir selon la perspective de Dieu. Ça, c'est la grâce, voir selon son regard. Hein, l'obéissance à l'appel ne suffit pas si je n'ai pas la perspective. En 4, l'annulaire et non pas l'annuaire, hein, d'accord. Ouais. C'est le doigt où se trouve l'alliance. Ça parle de l'alliance de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Cela parle du mariage. Ce qui m'attend, c'est d'être l'épouse du Christ. Vous voyez, ça se recoupe encore avec ce qui a déjà été dit. Quelqu'un a dit que le cœur de l'évangile, l'essentiel de l'évangile, c'est l'histoire d'un roi qui va marier son fils. Et nous devons toujours nous rappeler que Jésus ne va pas épouser une entreprise. Est-ce que mon église est seulement une entreprise? Ah, il faut bien s'organiser, il faut, c'est sûr. Mais l'église est avant tout une épouse. L'église est avant tout une épouse. Ah, si, si, elle me comprend. Et une épouse passionnée. Ce que craint Satan, hein, c'est pas une belle entreprise église, hein, où tout est... Ce que craint Satan, c'est une église qui espère jour après jour le retour de Jésus. Car cela lui rappelle sa destinée. L'enfer. Que nous soyons célibataires ou mariés, nous devons vivre cela dans la perspective de Jésus. Et enfin, le petit doigt, l'humilité. L'humilité. Cela parle de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense toujours à cette vision de Rick Joyner qui voyait le récit qui voyait l'image d'une bataille. Et plein de gens recevaient des flèches dans le dos, des gens qui n'avaient pas revêtu le manteau d'humilité. Et ils recevaient plein de flèches dans le dos. Vous voulez éviter de recevoir des flèches dans le dos qui vont vous abîmer. Soyez dans l'humilité. Parce que l'orgueil, on dit toujours, précède la chute. L'orgueil précède la chute. Voilà, ces cinq pierres polies de la grâce de Dieu. Voilà, me permettront, ces cinq pierres que je prends dans le torrent de la grâce de Dieu, me permettront de combattre mes Goliaths. Voilà, la dernière invitation à cette troisième question, c'est de puiser nos ressources uniquement dans le torrent de la grâce de Dieu. Placer mon espérance au bon endroit, hein, je redis, dans le retour à venir du roi Jésus, discerner les temps. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je désire? Voir selon la perspective de Dieu, voir son action dans mon quotidien, dans ma nation. 3, puiser mes ressources uniquement dans le torrent de la grâce de Dieu. C'est ce qui me permettra de vaincre les Goliaths. Je vous invite à vous lever, peut-être on va prier, je vais faire cette prière et qui peut être prolongée si vous voulez. Voilà, Seigneur, ferme les yeux et Seigneur, on veut te dire merci parce que quel que soit l'endroit où je me trouve, si je suis en train de monter ou si je suis en train de descendre, je suis même dans le creux le plus bas, je sais que tu me tiens fermement. Je sais aussi que tu m'attends. Merci pour l'espérance magnifique que tu viens bientôt régner. J'entends toutes ces informations, toutes ces menaces, mais je sais que tu viens, je n'ai pas peur. Je sais que tu viens bientôt régner et que déjà tu manifestes des signes de ton royaume. Et déjà tu m'appelles à être participant des signes de son royaume. J'éloigne de moi, Seigneur, toutes les espérances trompeuses pour m'attacher à toi, seul. Est-ce qu'il y a des espérances trompeuses? Saint-Esprit peut vous convaincre d'une espérance trompeuse. Je m'éloigne ce matin d'une espérance trompeuse. Ouais. Voilà, donne-moi, en attendant, d'apprendre à régner, en discernant les temps pour ma vie au quotidien, pour ma nation. Donne-moi, comme l'aigle, de prendre de la hauteur. Ouvre mes oreilles dès le matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples, Ésaïe 50. Donne-moi de désirer d'être où tu demeures, donne-moi de prendre plaisir à pratiquer tes instructions. Et enfin, merci Seigneur pour ce torrent de grâce dans lequel je peux puiser mes armes pour combattre mes Goliaths. D'aujourd'hui, de demain, comme David, je veux me dessaisir des armes charnelles humaines. Ces armures qu'on me propose, et aller combattre en ton nom, avec ton équipement qui me rendra capable d'atteindre la cible, les objectifs que tu as pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci de nous encourager, Seigneur, et de méditer, digérer tout ça. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu désires équiper ton peuple aujourd'hui. Amen. Amen.